Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci d'être présents à ce Café des Libertés, qui est une table ronde organisée par l'association CODAP, qui est une association de jeunes qui se veut défendre les droits humains. Et puis aujourd'hui, je serai la modératrice de cette table ronde. Le but, c'est de poser des questions et puis de diffuser l'information, essayer de partager des solutions et aussi des conseils pratiques qu'on pourrait mettre en activité au jour le jour autour de la question espace public, même droit pour tous et toutes, à savoir lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est une personne en situation de handicap, une personne sans papier, une personne sans abri, une personne rome ou bien toxicomane, quels sont les droits qui nous sont réservés. Pour nous aider à répondre à cette question, on accueille Natacha Stegman. Bonjour. Qui est présidente de l'association 1700 à Fribourg. Elle est engagée contre le harcèlement dans l'espace public et contre la discrimination liée au genre envers la population LGBTQI, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer et intersexe. Et également Monsieur Sylvain Thévaux, qui est député au Grand Conseil genevois, engagé pour la libre occupation de l'espace public par les Roms. On a aussi un public de choc. Les questions sont ouvertes. J'en ai préparé quelques-unes, mais bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un rapport entre nos invités et puis peut-être les questions que le public aurait. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à la courte introduction que j'ai pu faire à votre sujet ?
Non, je crois qu'elle était assez exhaustive. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir, bonsoir.
Au plaisir d'être là parmi vous. Il y a cette distance saine publique, mais je crois qu'on est tous dans la même barque. Donc, content d'être là pour réfléchir ensemble à ces enjeux importants.
Merci beaucoup. Peut-être en point de départ, on pourrait commencer par la définition de ce qu'on entend par un espace public. Et là, je vous laisse le droit de répondre.
Tu veux répondre ?
Je peux commencer. Alors moi, je suis pas juriste, j'ai pas une définition là-dessus officielle, mais par définition, est public tout ce qui n'est pas du domaine privé, donc... ce qui ressort de la régulation des propriétés de l'État ou des communes. Donc, moi, j'en ai une lecture assez extensive. La rue, les parcs, tout espace qui n'est pas une propriété privée.
Moi, je rajouterais quand même que dans la question du privé-public, je définirais plutôt un espace public comme un espace qui est partagé par une collectivité. Il y a aussi des espaces privés. Par exemple, je sais pas, un magasin, un bar, qui sont des espaces privés, mais qui sont un espace public parce qu'ils sont partagés. Donc, je pense qu'il doit y avoir les mêmes sortes de règles de vie communes quand c'est un espace même qui est privé, mais qui est partagé et collectif.
Par qui est-ce qui a construit cet espace public ?
La question tellement philosophique.
Par qui ? Pour qui ?
Les espaces publics, je dirais que c'est des espaces qui sont justement partagés, donc qui sont faits par des individus pour une collectivité, ou faits par une collectivité pour des individus ou une collectivité.
Bon, la loi, en tout cas, s'applique à toutes et tous, nonobstant que ce soit privé ou public. Hein, la loi... Je te rejoins, qu'on soit dans un espace privé ou public, on est soumis aux mêmes règles du vivre ensemble et de l'État. Après, qui a créé la division privé-public ? J'ai des souvenirs d'écoliers du droit romain qui distinguaient ces deux droits différents. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt quelles règles on se donne dans ces espaces, comment la loi est la même pour toutes, et je pense que c'est ce qui nous occupe ce soir, comment elle est appliquée d'une manière équitable et pas en fonction ou en distinction de rapports discriminants en fonction de genre, de groupe culturel ou de religion. Comment la loi est appliquée pour ce qu'elle est et pas soumise. Et pas soumise à des distorsions qui sont liées au pouvoir de la force ou de l'argent.
Du coup, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il est partagé cet espace ?
Ben, je sais pas quand. Après, c'est de nouveau une question extrêmement philosophique. Qu'est-ce que le partage ? Et je pense que dès qu'on se sent avoir l'envie d'aller sur une place ou j'en sais rien, ça devient un lieu de partage. Mais après, c'est extrêmement difficile de définir le partage.
Est-ce qu'il est, d'après vous, partagé de façon équitable et puis égalitaire par toute la panoplie arc-en-ciel de personnes qui font cette société ?
Moi, je dirais vraiment clairement non, vu qu'on a ce débat ce soir. Donc moi, j'ai vraiment une position extrêmement ferme. L'espace public n'est pas un lieu d'égalité. Et il a été fait et créé de manière à ce qu'on y voie que des personnes. Et là, je reprends un géographe français qui s'appelle Yves Rébaud, qui a justement beaucoup thématisé sur l'aménagement du territoire et l'espace collectif. Et en fait, sa théorie, c'est de dire que l'espace public est un espace qui est fait, donc les villes sont faites pour des hommes, par des hommes, mais donc pour des hommes d'1m80, d'1m80, valides et avec une employabilité, donc qui sont employés, qui n'ont pas au chômage ou pas invalides, etc. Et ça, je pense que j'ai la ferme conviction que c'est vrai.
Moi, je vais dans le même sens. C'est vrai qu'en droit, on devrait tous avoir le même accès à l'espace public. On voit que dans les faits, c'est pas le cas. C'est lié à ce que tu dis, justement, une ville qui s'est construite par les hommes pour les hommes. C'est lié au poids de l'histoire, évidemment, d'un pouvoir masculin dominant. On sait qu'en Suisse, jusqu'en 1971, les femmes ne votaient pas. On sait que la mini-jupe, quand elle est arrivée, était un objet de scandale. Enfin, que la venue, par exemple, des femmes dans l'espace public est un événement récent, disputé, et qui est aussi toujours dans ces enjeux, de l'enjeu sur le corps des femmes, je dirais. Donc, en droit, oui, l'espace public est le même pour tous. Après, on voit qu'en fonction de son genre, je l'ai dit, de son origine, suivant les moments de la journée ou la nuit, il se trouve qu'il y a des groupes qui se retrouvent mis à la marge, exclus, voire interdits d'usage public. On le voit avec les personnes notamment mendiantes, si on veut ouvrir ce débat maintenant, mais sur les Roms à Genève, qui au tournant des années 2000, c'était quelque chose de scandaleux, avec des articles de presse, comme ça, une vox populi qui stigmatisait comme ça la présence des Roms dans l'espace public, une récupération politique avec le vote d'une loi qui interdit la mendicité en 2008. Et puis, depuis, des forces de police qui amendent. En gros, c'est 13 000 amendes, suivant les chiffres que j'ai depuis 2008, mais sur 1500 personnes. Donc c'est, en gros, beaucoup d'amendes sur peu de personnes, avec un effet dissuasif quasi nul. La mendicité n'a, je pense, ni augmenté ni baissé, mais une stigmatisation d'un certain groupe identifié comme étant des mendiants, alors que ce n'est pas évidemment les seuls qui mendient. Et puis, cette loi sur la mendicité qui nécessite tout un appareillage policier, répressif, qui finit par punir la personne précaire d'être précaire dans l'espace public. Donc on part d'un principe de droit d'égalité. On arrive à la chasse aux pauvres, si je la fais un peu courte, peut-être ça alimentera notre débat. Et une chasse aux pauvres, mais une chasse aux stigmates, c'est-à-dire à la personne visiblement pauvre, ou visiblement rome, ou visiblement non-suisse, vous m'entendez dans ce que ça peut vouloir dire. Et ça, c'est un enjeu important. Moi, j'étais une fois sur la plaine de Plainpalais, il y avait deux roms, puis des policiers étaient au loin, et puis ils me disent « Oulala, il faut que je te quitte, parce qu'ils vont nous amender... » Donc on est dans une espèce de chasse à l'homme, ou chasse au faciès, d'une instance qui est censée représenter pourtant l'État, la loi, l'égalité, l'accès pour toutes et tous dans l'espace public. Donc là, il y a un débat politique à avoir. On est en train de le mener au Parlement pour la suppression de cette loi qui interdit la mendicité. L'objet est reporté de séance en séance, mais j'y vois pas malice, c'est juste que le Parlement travaille à son rythme. C'est pas gagné, ce sera probablement perdu, parce qu'il y a cette espèce d'idéologie, vous me dites si je suis trop long, mais qui cette loi sur la mendicité, elle a permis d'évacuer ce problème. Or, elle ne l'a pas évacué, elle a simplement permis ou autorisé l'État à marteler les plus précaires, voire aller jusqu'à les mettre à chandelon pour amende impayée. Et puis, elle a permis une certaine bien-pensance, puis d'évacuer de certains points les mendiants parce qu'ils sont, avec un appareil législatif, invités à dégager ou réprimer s'ils sont dans l'espace public. Ce combat pour supprimer cette loi, on va le mener. Peut-être ça fonctionnera. On essaye de trouver des arguments économiques, de dire que les amendes ont rapporté 1,6 million à l'État. Elles coûtent plus de 3 millions. Je pense que c'est beaucoup plus, justement, un appareil policier. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est de l'ordre du politique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on doit ensemble réfléchir puis avoir un discours politique pour contrecarrer.
Mais moi, j'aimerais juste rebondir sur justement la question des Roms. Je ne pense pas que ce soit une question forcément d'espace public ou d'aménagement du territoire ou d'accueil, etc. Moi, je pense, j'ai vraiment la ferme conviction que pour la question des Roms, c'est une question de discrimination et de racisme qui est enfouie, imprégnée à l'intérieur de la culture suisse. Et ça, j'en ai la ferme conviction parce que quand on voit qu'une population n'a pas forcément de visa Schengen pour venir en Suisse, alors que c'est quand même une population qui vient souvent de pays qui ont l'opportunité d'avoir des visas Schengen, donc qui pourraient venir en Suisse, mais qui ne l'ont pas, donc ça c'est déjà une forme de discrimination. Et ensuite, quand on demande à la plupart des gens qu'est-ce que les Roms ça vous évoque, il n'y a que des stéréotypes. Ah, c'est des voleurs, ah, c'est des mendiants, ah, ci et ça, ici. Donc, je pense fermement que la question des Roms, c'est aussi une question, c'est pas un débat, c'est une discussion de société qu'il faudrait avoir une fois pour toutes, et aussi entreprendre des mesures afin de sensibiliser et éduquer la population, qu'elle soit du plus jeune âge au plus vieil âge, à la question des Roms. Parce que des discriminations comme ça, quotidiennes, je pense que ça doit être un enfer d'être un Rom dans certaines situations, et où la plupart des personnes ne comprennent pas que c'est une population qui subit des discriminations absolument partout en Europe, et qui n'a pas de... Donc ils viennent sans permis de séjour, donc ils n'ont pas de permis de travail, et ils sont obligés d'aller vers la mendicité pour survivre. Et après, on ose encore avoir de la discrimination envers ces personnes. C'est pas une question de misérabilisme ou de les victimiser, c'est vraiment juste une question d'étaler la vérité. Donc je pense que non seulement il y a des mesures politiques qui doivent être faites, mais si on met ces mesures politiques, on n'arrivera jamais à avoir le débat de fond tant qu'on n'a pas des mesures pour faire de l'éducation, de la sensibilisation. Qui sont les Roms? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Ah tiens, en Suisse aussi, on a des personnes qui sont aussi issues des gens du voyage, mais qui se sont sédentarisées. Ah tiens, il y a des yéniches, et 10% de la population suisse pure vient aussi des yéniches. Moi, par exemple, mon arrière-grand-père était yéniche. Voilà. Donc voilà, je suis aussi un exemple.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce ne sera jamais fait une fois pour toutes. Je pense que c'est un travail à faire sur les discriminations. Il se trouve que ce groupe-là, étant dans l'espace public, étant précarisé, étant exposé, devient la cible d'une discrimination, de processus du bouc émissaire qu'on connaît bien en sociologie. Et comment on sort de ça, je pense que c'est un des enjeux importants, de voir comment des associations font aussi un travail de combat, mais aussi de donner la parole aux Roms pour que ce groupe-là s'exprime et casse, si possible, ces préjugés qui sont tenaces, qui se déplacent aussi de groupe en groupe depuis, je pense, la nuit des temps. Il y a aussi une réflexion à avoir sur comment on peut mettre en avant les compétences aussi de ces groupes et de ces gens-là, comment en faire des ressources. C'est des experts, d'une certaine survie dans la précarité ou d'usage d'espace public. Comment on peut mettre en place des mécanismes pour les entendre, et relayer la vision qu'ils ont sur notre société. Pour moi, c'est aussi des lanceurs d'alerte, en employant un terme à la mode, sur les abus policiers, sur les distorsions de notre démocratie, sur les violations de la loi. Et l'État devrait, à un moment, et la société, se dire comment on peut avoir une écoute pour ces lanceurs d'alerte-là. Malheureusement, la stigmatisation fait qu'en général, on ne leur donne pas la parole ou cette parole est évacuée. Après, il y a eu, des groupes de réflexion aussi. Il y a eu une volonté, à un moment, de mettre des consignes pour pouvoir, notamment, pouvoir laisser les bagages, avoir des aménagements urbains qui permettraient aussi de déstigmatiser, en tout cas de faciliter aussi une existence dans la rue. C'est des choses qui prennent un temps fou, qu'on n'arrive, je ne sais pas pourquoi, pas à faire. Donc je pense qu'il y a aussi dans l'État des zones grises avec ces stigmatisations qui sont portées aussi par des décideurs. Tant que ça criera pas plus fort, tant qu'on pourra déplacer ces populations, tant qu'elles seront invisibilisées, je pense que ça continuera comme ça. Il n'y a pas assez de force et de citoyens encore qui se mobilisent là-dessus.
Et après, je dirais qu'il y a aussi, non seulement il y a la population rome, mais après il y a aussi les personnes qui sont sédentaires et qui sont implantées en Suisse. Et donc les premières, par exemple dans mon association, je vais porter plainte j'accompagne les personnes pour porter plainte. Et quand il y a des menaces de mort, des agressions, et ce que je vois, c'est que par exemple à Fribourg, de plus en plus de personnes, de femmes noires qui portent le voile islamique, sont les cibles de menaces de mort, etc. Et après, j'ai vu jeudi passé le reportage aussi Temps présent de Chiaka Kagame, qui est un réalisateur suisse noir, et qui justement dénonce aussi qu'il y a des délits de faciès, même en Suisse. On pense toujours aux États-Unis, etc. Mais j'ai l'impression que la couleur de la peau, une religion aussi qui est ostentatoire, comme porter le voile, c'est aussi dérangeant dans l'espace public pour la plupart des gens, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut prendre le problème et puis arrêter de penser que en Suisse il n'y a pas de racisme, etc. Mais il y en a, et c'est terrible de se dire qu'on n'agit pas. Et je pense que c'est vraiment, comme pour la question des Roms, c'est une question d'éducation, de sensibilisation. Et il faut pas. Et après, oui, il y a aussi des personnes, par exemple les personnes LGBTQI, si elles osent montrer qu'elles sont, deux hommes qui s'embrassent dans la rue, la plupart du temps elles se font insulter, agresser, etc. Donc qui est bienvenu dans la rue, en fait? À qui appartient cet espace public? Et je pense que c'est aux personnes aussi qui sont les plus à l'aise dans la rue, comme les hommes bien portants de plus d'1,80 m. Valides, qui doivent aussi se poser la question: comment est-ce que nous, avec notre privilège d'homme blanc valide, on peut aider les autres personnes à faire que l'accessibilité soit ouverte à tous et toutes? Mais ça paraît très utopique, mais je pense que c'est possible en Suisse.
Si je peux rebondir, c'était juste avant ce que vous évoquiez sur la la représentation, en fait, d'un groupe justement qui est exclu de facto de la société ou de l'espace public, et la question de comment donc ils se défendent et comment ils se valorisent et comment il y a un écart entre les compétences réelles et les compétences ressenties par le reste de la société. Et ça amène une question qui, je pense, est hyper, qui me paraît intéressante et qui rejoint tous les combats à ce moment-là, c'est comment je représente déjà, est-ce qu'une minorité, ou ce qu'on appellerait une minorité, se sent une minorité unique et unitaire, et donc on aurait un porte-parole qui viendrait porter un message unique sur lequel tout le monde est d'accord, ce qui est très difficile à faire pour la plupart, pour tous les combats. Et c'est l'exemple plutôt justement qui est intéressant avec le féminisme et l'homosexualité aujourd'hui, c'est qu'il y a des organisations et donc des porte-paroles qui permettent de porter le discours au-delà, en fait, du privé. Et je pense que sur la question Rome, je n'ai pas souvenir qu'il n'y ait jamais eu une organisation qui vienne faire de discours particulièrement pour représenter la question Rome, ou même ne serait-ce qu'un intérêt Rome de liberté de si, de respect de si. Donc, pas de porte-parole, en fait. Alors là, je dirais, moi, je n'en ai pas la connaissance, mais je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça, en fait, réellement affiché et fort sur la scène publique et dans les médias pour dire, voilà, il y a une prise de position et il y a un vent fort.
Peut-être Inès pourra prendre la parole là-dessus, mais je comprends. Déjà, je pense qu'il n'y a pas... C'est le groupe homogène, il ne se définit peut-être pas comme homogène. Nous, les Roms, enfin, ça, c'est un regard... ici, les Roms sont comme cela. Moi, je me rappelle au club social Rive Gauche, qui donne les repas pour la ville de Genève, on nous disait qu'il y a eu une période un peu honteuse de quotas. On se disait qu'il ne faut pas plus de 30 Roms. Et c'était très drôle de voir qui était compté par les travailleurs sociaux comme Roms et qui ne l'était pas. Et c'était n'importe quoi. C'était comme les flics, les policiers, pardon, quand ils sont dans la rue, ils disent « Toi, tu mendies, t'es Roms. » Mais non, je suis nord-africain ou je suis tessinois. Vous voyez, il y a des espèces de stigmatisation complètement hors réalité. Donc je pense qu'il y a ça, nous on dit les Roms, mais qui sont-ils? Quel groupe font-ils? Est-ce que c'est une appartenance sur la famille, sur un groupe qui n'est pas forcément sur cet enjeu-là? Et après, la précarité fait qu'il est difficile de fonder un porte-parole, une association, quand les gens viennent, passent, repartent, reviennent, sont parfois en tension entre eux. Il y a Messem Roms, cette association qui a, et qui aujourd'hui parle, je dirais, de cette position-là. Il y a des églises, il y a le centre social protestant, donc il y a des voix. Après, c'est aussi l'effet piégeant de quand une population est stigmatisée, montrée du doigt, y répondre, c'est aussi des fois renforcer le stigmate. Donc moi, je pense que c'est pas forcément ni aux Roms eux-mêmes de parler en leur nom, ni seulement aux hommes blancs dominants d'1m80, mais c'est vraiment à chaque citoyen de se dire, mais quand je vois un policier qui déplace quelqu'un ou qui lui dit tu peux pas rester là parce que tu peux pas rester devant un commerce, on devrait quelque part connaître la loi, connaître les droits pour dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Et puis si c'est visiblement hors la loi, d'avoir le courage de le dénoncer. Et ça appartient à chacun. Dans ce sens-là, c'est ce qu'a fait l'Université de Genève avec ses petits ouvrages de la Law Clinic sur les droits, notamment des personnes roms à Genève, sur les personnes LGBT, sur les détenus à Chandelon, un espèce de guide juridique pour donner à ces publics-là le moyen de se défendre, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, mais aussi plus largement la société. Alors ça a été détourné apparemment par la police, qui a utilisé ces petits livres pour mieux punir les personnes marginalisées, m'a dit Julia Hasdeou, qui est une chercheuse. Il n'empêche de... chacun être les porte-parole des voix minorisées, stigmatisées, parce que c'est illégal. Et il y a tous les jours des pratiques de police illégales, confiscation des effets personnels, destruction d'effets personnels, avec des plateformes où on entend des récits où la personne est prise, mise hors de Genève par les forces de l'ordre, parce que comme ça, elle ne reviendra pas. Après, il y a la véracité des récits. Qui dit vrai? Donc là, après, quand on bascule dans un champ judiciaire ou pénal, il faut des faits, il faut des heures, il faut des photos, il faut pouvoir prouver les faits. Puis là aussi, quand il y a des personnes dans la grande précarité, c'est difficile pour elles de pouvoir fonder leurs propos. Et ça explique un peu une zone d'ombre qui fait que les autorités, qui ont été très souvent, on les a prises à partie, disent « mais tout se passe bien en gros ». Or, je crois que tout se passe pas bien du tout. En tout cas, il y a une version... officielle, puis il y a une version des gens dans la rue, et ça se recoupe pas du tout.
Et en plus, il faut savoir qu'actuellement, si on pose plainte contre la police, et nécessairement, il y a une contre... et obligatoirement, le policier doit faire une contre-plainte et contre la personne, et s'il y a un problème, et si on est en situation irrégulière, et en plus, tu vas contre... Tu vas la sortir plus cher que ce que tu peux l'avoir. Premièrement ça, et deuxièmement, je pense que Natacha a bien dit, je veux dire, il faut accompagner les personnes qui sont en grande détresse, vulnérables, il faut les accompagner pour déposer plainte. C'est pas évident d'aller déposer plainte, et c'est pas évident tout ce monde-là. Et c'est dommage que Martha était l'après-midi avec vous. Et c'est une femme rome qui a été agressée par une femme suisse qui a en plus a déposé plainte contre elle. Elle, au commencement, elle a pleuré et elle ne voulait pas aller contre cette femme parce qu'elle était convaincue qu'elle allait rien sortir de cette histoire. on a passé du ministère public au tribunal, et elle a gagné, mais elle a gagné avec en retrouvant en elle des ressources qu'elle ne connaissait même pas. Et à la fin, quand elle a dit devant le juge « je suis innocente, ce qui m'arrive est injuste », ce n'était pas la même personne qui était au commencement de l'histoire, qui pleurait, qui disait « laisse tomber Inès, je suis foutue ». Donc il faut aussi savoir que c'est très facile d'aller contre les droits des personnes qui se sentent vulnérables, ce que tu disais. Quand ton image de soi est si blessée, si bas, et c'est aux autres aussi, à la communauté, de montrer une solidarité. Et pas aux hommes de plus d'un mètre ou quatre mois, parce que sinon
on est foutus.
Mais je veux dire, à tous, on doit être solidaires et savoir qu'il y a beaucoup de groupes vulnérables, et de plus en plus savoir qu'on doit avoir un niveau d'exigence pour connaître la loi déjà et pour savoir ce qu'on vote. Parce que le procureur qu'on a aujourd'hui à Genève, on l'a voté tous. Je veux dire, c'est clair. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont.
Parce que dans votre exemple, là, c'est très important de se dire aussi que quand, par exemple, on va porter plainte, la personne en face de nous, donc le policier, la policière, c'est aussi un être humain. Et cet être humain va aussi être, subir ses propres démons dans un certain sens, donc va aussi avoir des certaines discriminations imprégnées en elle-même. Donc, dans mon exemple, par exemple, quand je vais accompagner des personnes, parfois j'ai le droit de dire quelque chose, parfois j'ai pas le droit, mais dernièrement, justement, j'ai accompagné une personne, une femme noire de peau, qui porte le voile islamique, et le policier en face de nous ne la croyait pas. Bien sûr, il tape, il dit « Ah oui !» Puis après, il a exercé des menaces envers elle. « Ah, mais vous savez, si c'est faux ce que vous dites, ça va se retourner contre vous. » C'est que des méthodes d'intimidation qui sont aussi là vers la police, parce qu'il ne faut pas penser que les lois sont vierges de discrimination. Les humains se discriminent entre eux. Et du coup, c'est aussi important que si vous avez l'occasion de faire le poids, donc d'accompagner des personnes pour porter plainte et rester avec elles, parce que même moi, ça m'a traumatisée, ces séances avec le policier, mais on a réussi à coincer le gars qui faisait des menaces de mort parce qu'il y avait une preuve vidéo. Et ensuite, voilà, la preuve vidéo est arrivée au policier et tout à coup, il a changé de discours. « Ah oui, alors je vais renoter votre plainte d'il y a 6 mois. Ah oui, il vous a réagressé. Ah oui, Tout à coup, ça change parce que voilà, on n'a plus la même perception. Je pense que ce policier pensait que c'était une menteuse parce que je sais pas, peut-être qu'il exerce certaines discriminations envers les femmes de couleur, envers les femmes qui portent le voile islamique, j'en sais rien. Mais le fait est que oui, les humains n'hésitent pas à se discriminer entre eux. Donc il faut aussi rester courageux et toujours accompagner et faire preuve de solidarité, même quand c'est pas nous. Donc faut pas perdre espoir, parce que quand je dis ça, on dirait que oui, alors il faudrait pas porter plainte. Non, il faut rester là, il faut rester accueillant et accueillir la parole des autres, et penser aussi que le système judiciaire en Suisse, c'est aussi un système qui est vraiment imparfait, parce que justement c'est des êtres humains qui vont appliquer et décider si la loi s'applique ou pas.
C'est vrai, nous on avait fait avec Eric Rosé, là, qui est un photographe, un livre. Eric Rosé a fait un livre de photographie sur les Roms à Genève. Puis on est allé dormir avec lui quelques nuits avec les amis Roms. Et une ou deux fois la police était venue. Et c'est vrai que c'était des interventions, la torche, allez, dégagez. Or, il n'y a rien qui interdit de dormir dans l'espace public à Genève, par exemple. Mais l'intervention était brutale. Le fait d'être là avec Eric, on voyait les policiers municipaux surpris. Mais on ne sait pas, vu qu'on était là cette fois-là. Mais voilà, les amis roms étaient là, on part. Il y a une espèce de réflexe de dire on évite les ennuis. Et puis nous, on était un peu mal à l'aise parce qu'on disait on va peut-être leur attirer plus de troubles. Ils disent mais après vous rentrerez à la maison, mais les prochaines fois, ils vont nous punir, ils vont augmenter la répression. Et puis après, il y a la connaissance de la loi. Et il y a une espèce de zone grise où quand on dit à la police municipale, vous n'avez pas le droit de chasser les gens, ils disent mais oui, s'il y a un usage extensif de l'espace public, s'il y a un lit qui est mis par terre, s'il y a appropriation d'un bout d'espace public, ça on doit déplacer. Après c'est la manière dont c'est fait, c'est comment c'est communiqué, et puis les solutions alternatives. On se dit dans une société démocratique, parce que si vous déplacez quelqu'un, si vous l'empêchez de dormir, l'idée serait de le mettre à l'abri, qu'il ait un toit, et puis de ne pas le laisser dormir à la rue, pas parce qu'il dérange dans la rue, mais parce que ce n'est pas digne, respectueux d'une société démocratique, une des plus riches du monde, de laisser quelqu'un à la rue. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce de noria, où les gens sont déplacés comme ça, dans l'espace public, jusqu'à devenir, je pense... fragilisé ou devenir vraiment stigmatisé, et ça c'est intolérable dans la société aujourd'hui. Toujours est-il voilà, d'être à côté à une force, mais ça reste insuffisant. On ne peut pas tous se mettre aux côtés des personnes stigmatisées. Il faudra à mon avis quand même passer la vitesse supérieure. Ça peut être la formation de la police, ça peut être à mon avis c'est insuffisant sur les fondements du droit. On a aujourd'hui une police qui est formé à Savatan dans un fort militaire. Or, c'est pas ça la police. C'est pas ça la police de proximité. Elle doit être mise au contact, par exemple, de Messem-Rom, d'associations qui pourraient aussi la sensibiliser à ces enjeux-là. Il y a un grand travail à faire. Et puis dénoncer. Je pense pas hésiter. On a la chance maintenant d'avoir des smartphones, prendre une photo. La police déteste ça, mais s'il y a visiblement filmé. On l'a vu aussi avec les caméras embarquées, c'était le mouvement MeToo, ces femmes qui marchaient dans la rue, puis on entendait ce harcèlement continu. Je serais très, et peut-être qu'on doit y réfléchir ensemble, de mettre ce type de dispositif pour une personne précaire à la rue, à Genève, et de voir un peu comment ça se passe. Je pense que quelqu'un qui peut faire ça, je pense qu'on serait assez choqué par le résultat. On avait aussi au conseil municipal demandé une étude, par exemple sur le sans-abri, le nombre de sans-abri à Genève. Ça n'a jamais été fait. On nous répond, mais c'est pas possible de faire, c'est une population mouvante, il faudrait trop de ressources pour pouvoir la cartographier. Et c'est pareil au niveau cantonal, il n'y a pas sur le sans-abrisme une image objective pour savoir si c'est 200, 300, 500 personnes qui tous les jours à Genève, quelque part, errent dans l'espace public. Pas de chiffres. Et ça, c'est problématique aussi. On a à la ville une magistrate qui dit son objectif politique, c'est zéro sans-abri en 2020. On en est à des années-lumière. Il n'y a pas une place qui se construit. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a quelques expériences en plus. On a un manque. On a l'armée du salut qui fait l'accueil pour le sans-abri. On a l'ouverture des abris PC de la ville, 200, 300 places pour les grands froids l'hiver. Mais le reste de l'année, quelqu'un qui arrive demain à Genève, si l'armée du salut est pleine, il est à la rue, il est dans les parcs, il est livré à lui-même, livré à la discrimination ou à la violence. Ça, c'est insatisfaisant, c'est même indigne. Après, les policiers, moi, je leur jette pas la pierre. Ils sont aussi soumis à... Ils doivent répondre aux appels. Donc, quand je parle avec eux, ils disent, mais vous savez, les commerçants nous appellent, puis ils disent, il y a quelqu'un devant chez moi, ça gêne le commerce. Donc les policiers sont tenus d'une manière à répondre à cet appel, puis ils vont faire le boulot en fait. Et là, il y a quelque chose vraiment à réfléchir sur comment on ne reproduit pas ces mécanismes insidieux, puis petit à petit vous en venez à la chasse aux faciès.
Parce que je pense que dans une politique d'une ville, si on veut avoir une politique de répression, il faut avoir une politique de solution complémentaire. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on trouve des solutions tant qu'on... Enfin, on fait de la répression, c'est une solution peut-être, mais tellement éphémère. Et je pense que les solutions, elles doivent vraiment venir dans des plans d'action sur 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Et je pense que c'est ça aussi le défaut, le grand défaut des politiques urbaines, si on peut dire ça comme ça, des grandes villes de Suisse. Mais par exemple, bon, à Fribourg, je pense que par semaine, je croise peut-être une, voire deux personnes en train de mendier, et c'est tout. Et encore, à Fribourg, c'est assez toléré, tant que la personne en fait offre quelque chose, par exemple elle fait de la musique ou vend des journaux ou quelque chose comme ça, donc c'est toléré. Mais j'imagine que si des personnes viennent mendier à Fribourg et qu'il y en a plus que ce qu'il y a aujourd'hui, je serais pas étonnée qu'il y ait aussi des politiciens et politiciennes qui commencent à vouloir mettre des mesures extrêmement répressives à leur encontre. Mais ouais, moi je pense que la meilleure des solutions, c'est trouver une solution.
Et quelles seraient ces solutions si vous en avez à soumettre?
Dans la question des Roms, je pense que c'est pas à nous d'offrir la solution sans avoir compris qu'est-ce que c'est d'être un Rom en Suisse. Donc c'est vraiment, je sais pas, une étude. Même une petite étude, ça coûte pas grand-chose en fait. Une étude qui est faite en collaboration et pas pour aider les... Non, en collaboration. Il faut arrêter avec cette espèce de monde où c'est eux et nous, l'altérité, etc. Non, maintenant, il faut penser en termes de collaboration. Comment est-ce que moi, Suisse, je peux t'aider, toi, Rome, à mieux vivre ta survie en Suisse, par exemple? Et pour moi, c'est extrêmement éphémère parce que là, il y a aussi un problème de discrimination européenne. Comme j'ai dit avant à Cécile, quand on voit des problèmes, souvent on a peur parce que ça fait beaucoup de problèmes en fait en une fois. Mais il faut les décortiquer et voir que des petites solutions sont possibles et petit à petit, ça donne la solution globale qui est la solution au grand problème. Donc je pense que oui, une des meilleures façons, ce serait d'aller à la rencontre des Roms pour leur demander, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que je pourrais t'aider, toi? Et vraiment faire ça en collaboration pour le mieux vivre, le vivre ensemble de tous, quoi.
Mais moi, j'ai juste une question. Pourquoi vous focalisez sur les Roms? Parce qu'on en est plus loin que ça, maintenant. Parce qu'il y a des... Justement... Parce que maintenant, il y a le Suisse, le Genevois, il y en a aussi qui sont dans cette situation-là.
Oui, bien sûr.
Avec le problème de chômage, d'exclusion quand on a 50 ans, après t'es viré ton appartement. Il y a aussi des gens qui arrivent, qui sont dans cette situation, sans être Roms. Donc je pense qu'il ne faut pas, pour moi, là, ce qui me dérange un petit peu maintenant, c'est qu'on parle que de ça, des Roms. Et je pense que ce n'est pas... que des Roms, parce qu'on a aussi des gens...
Vous avez raison, c'était pas l'intention. On est parti de là, parce que là, je pense que cette loi anti-mendicité, il y a eu un historique sur la stigmatisation que cette loi anti-mendicité était pensée comme une loi anti-Roms. Mais vous avez raison, l'enjeu pour moi, il est la précarité et le fait que des gens se retrouvent dans la rue, démunis, sans ressources. Et ça, c'est intolérable. Quelle solution on trouve? Alors moi, je pense que c'est plutôt à l'État, à la société... collective, construire des lieux en suffisance, n'importe quelle personne qui arrive à Genève, qui est sans abri, puisse se doucher, avoir à manger, avoir un contact avec une personne qui va lui donner ses droits minimaux, mais savoir un peu comment l'aider, l'orienter dans cette société, quels sont ses besoins.
Mais le Suisse qui a vécu normalement, qui tombe dans cette précarité.
Le Suisse, bah, il a des droits que la personne qui arrive ici n'a pas. S'il a travaillé, il a droit au chômage.
Oui,
s'il perd le chômage.
Donc, on est d'accord, il y en a combien maintenant qui tombent dans cette même précarité? Ben, c'est bien joli, le chômage, ça dure 18 mois. Il y a aussi des gens qui plongent, hein. Il y a des Suisses qui plongent. Après, ils n'ont plus d'appartement. Enfin, ils peuvent aussi tomber là-dedans, il y en a quand même. On voit combien de personnes qui font les poubelles, qui... Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter de focaliser sur les Roms. Je pense que c'est un ensemble, malheureusement. Et voilà. Et il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer parce que finalement, la société, les patrons, ils sont tout éperlés. On jette les gens, on les veut plus à 50 ans. Il y a tout un qui fait que certaines personnes tombent dans cette précarité.
Mais c'est une culture de la discrimination.
Ouais. Oui.
Dès qu'on est une femme et qu'on a plus que 48 ans,
voilà. Les hommes aussi.
Tout à coup,
aussi des hommes.
Bye bye. Tu n'es plus...
on n'est plus... Voilà.
Et ça, c'est aussi des mesures. Ouais. Parce que c'est comme, par exemple, Alain Berset qui souhaite augmenter l'âge de la retraite. C'est bien beau, hein. Moi, techniquement, je ne serais pas contre, hein, mais avant tout, il faudrait voir que les employeurs continuent à employer des personnes de plus de 48 ans.
De toute façon, et qu'on les paye la même chose aussi. Déjà, un salaire pour travailler égal. Non, mais je pense que c'est ça. Il y a un grand... c'est pas seulement ce qu'on peut faire, c'est toute une politique avec les patrons, les entreprises, les politiciens. C'est un truc...
Oui, mais je pense que si on veut être efficace, il faut essayer de la prendre par morceaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, sur la question de personnes qui n'ont nulle part où aller et qui se retrouvent dans l'espace public, qui est un espace, par définition, où on est exposé, où on est stigmatisé, où on est, en fonction de comment on s'habille, poursuivi, on va le dire comme ça, les femmes, les personnes
visiblement... Les seniors, maintenant. Les seniors aussi.
Les seniors, ok. Donc voilà, comment on règle la question, par exemple, du sans-abrisme. Parce que je disais, mais autant Suisse que non-Suisse, même si vous regardez les statistiques, proportionnellement peu de Suisses qui se retrouvent à la rue sans rien. Parce qu'il y a des filets sociaux pour les Suisses que d'autres n'ont pas. Donc moi, je ne mets pas sur le même plan ces formes de précarité, même si au final, on est d'accord, elles sont toutes intolérables. Mais voilà, une des solutions, ce serait de construire des lieux accueillants, bienveillants, où les personnes peuvent être logées. Pourquoi on ne le fait pas? Je pense que ça, c'est une question intéressante. Moi, je discutais avec un promoteur, il dit, il y a 200 000 m² de bureaux vides à Genève, ça augmente sans arrêt. Puis ils disent, mais c'est normal, l'économie a besoin de bureaux vides pour pouvoir réguler et maintenir les prix du marché bas. Et puis les employés, les personnes, les entreprises qui viennent, elles veulent pouvoir choisir où elles vont aller. Vous voyez? Donc voilà, il y a un dispositif qui est fait pour les entreprises, okay, des espaces vides. Il y a un autre dispositif qui est fait pour les locataires. Okay. Même là, c'est un peu bas, mais il y a peu de taux de roulement, vous avez de la peine à trouver un logement, mais ça profite finalement aux régies qui peuvent monter les tarifs. Donc le dispositif privilégie les entreprises, un peu moins les locataires. Et au final, alors les précaires qui n'ont rien et pas de lieu, on se dit, mais qui s'en occupe? Alors eux, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de groupe d'intérêt qui va dire, il faut absolument construire 5 lieux d'accueil pour 400 personnes. On peut dire que c'est un peu le nombre de personnes qui tous les jours, selon les associations, ne trouvent pas de lieu où habiter. À mon avis, l'enjeu, il est là, de créer un rapport de force politique. Et il y a quelques voix à gauche, mais pas assez, qui demandent ces lieux d'accueil et qui, en général, sont minorisés. Comment, collectivement, on se dit, c'est une des pistes de solution. L'argent, il y en a. Fondation Wilsdorf, Fondation Machin, on va faire une cité de la musique à 300 millions. Ça, c'est possible. Mais on n'arrive pas, depuis que je suis à Genève, en tout cas 15 ans, à planter un clou pour une nouvelle structure d'accueil pour les sans-abri à Genève.
À l'année.
On fait des ouvertures temporaires. Alors, il y a le projet de l'armée du salut. Vous avez raison, elles sécheront sur un petit triangle à côté de la gare. C'est pas encore fait, c'est repoussé. Et puis, c'est de mémoire une centaine de places, je crois, guère plus. Mais vous avez raison, une jolie structure sur 4 étages. Mais elle se substituera à l'armée du salut actuelle qui est à la Galif. Donc, je suis pas sûr qu'on va gagner beaucoup de places.
47.
Mais après, je pense que c'est ce domaine-là. C'est, on choisit aussi, dans les médias ou les politiciens choisissent aussi d'invisibiliser ces personnes marginales, enfin, qui sont marginalisées par les personnes qui sont valides, hein, parce que c'est une réalité qui dérange et c'est une preuve de l'échec de notre système social et de notre société. Et ça, on est très fragile, on est tous un peu fragiles parce que, bien sûr, pour certains versants, ça va très bien, on est très content d'avoir ce qu'on a. Hein. Et du coup, de challenger ce qu'on a pour faire profiter à d'autres et mieux faire profiter à d'autres en perdant un peu de notre confort, c'est là aussi l'enjeu, je pense, de la Suisse et de notre société suisse. C'est de perdre un certain confort au profit des autres. Parce que je pense que, oui, des structures d'accueil... Mais c'est tout ça, c'est provisoire. Alors que ce qu'il faut regarder, c'est vraiment des mesures d'insertion, de réinsertion. Pourquoi est-ce qu'une personne est devenue une marginale? Ah, parce qu'il est arrivé ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la réinsérer? Parce qu'il y a aussi des formes de discrimination à son encontre. En Suisse, on sait très bien que si on ne travaille pas, on est un marginal. On est un marginal. Et personne essaie de comprendre, mais pourquoi tu ne travailles pas? Ah, tu es au chômage. Moi, personnellement, je suis au chômage en ce moment, si jamais. Et ah, tu es au chômage, ben voilà, il y a des discriminations, il y a des espèces de stéréotypes que tout le monde se fait dans sa tête. Ah, mais c'est parce qu'en fait, elle ne postule pas du tout. Je postule, mais ce n'est pas de ma faute si on ne veut pas m'employer au bout d'un moment. Mais du coup, il faut aussi déconstruire la vision qu'on a des personnes qui sont marginales. Des personnes marginales, et ça, c'est aussi aller dans notre confort quotidien que... Parce que franchement, c'est extrêmement facile de vivre en Suisse sans se soucier des autres. Tout est fait pour que tout roule et que voilà, les gens, on s'en fout en fait. Ah, si t'as atterri dans la rue, c'est parce que t'as eu des problèmes, mais je ne suis pas responsable. Mais on est tous responsables les uns des autres, tu m'excuses. Parce qu'on vit dans une collectivité. Une collectivité, c'est un ensemble qui est partagé. Donc franchement, au bout d'un moment, moi je pense qu'il faudrait se partager les tâches. Se partager bien sûr les richesses, hein, mais ça. Et je vois, en tout cas, bon, à Fribourg, il n'y a pas ce problème des loyers, etc., extrêmement élevés. Ça fluctue et tout. Mais par exemple, pour un 3 pièces et demi, on peut encore trouver quelque chose, charge comprise, à 1343 francs, par exemple. Tandis qu'à Genève, c'est horrible. Tout est fait pour que des personnes aillent vers la précarité, vers la marginalisation, vers tout ça. Et ça, vraiment, c'est des débats qui sont... Je pense que c'est facile de mettre en œuvre des mesures. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un peu moins de confort.
Non, mais c'est pas une question de confort. Ouais. Je ne veux pas parler de moi, mais juste... Moi, je travaille tous les jours. Je travaille sur appel. Tous les matins, je me bats pour trouver du travail. Je me débrouille. Simplement, le jour où je perds mon appartement... Ce qui risque d'arriver parce qu'ils ont déjà viré tout le monde dans l'immeuble, hein. Ça c'est comme ça, les vieux appartes, on les refait, on les loue de nous. Je fais quoi ?
Vous avez qu'à... Parce que moi j'ai aussi, il y a 3 ans, j'ai failli perdre mon appartement avec ma maman.
Non mais il n'y a pas qu'à.
Et on m'a dit, ah mais vous pouvez aller à la tuile. La tuile c'est un endroit pour sans-abri. Donc je me dis, mais. Ouais. Mais tiens, il y a peut-être une autre solution, non ? Moi, je travaille, on a les ressources et tout ça. C'est juste qu'on a un petit peu un mauvais dossier parce que ma mère, qui était mère célibataire, a eu vraiment beaucoup de dettes et du coup, elle a eu des poursuites. Donc voilà, tout à coup, il y a aussi ça. Donc je sais pas, c'est des petites choses, mais qui s'accumulent dans la vie et dans les destins de certaines personnes et qui font qu'elles sont précarisées et mises à la rue. Et non, moi, je refuse. Franchement, quand on m'a dit « Ah, mais tu sais, tu peux aller à la tuile. » Non, mais non, il faut refuser. Il faut refuser d'être jeté. Il faut s'accrocher. C'est pas, je veux pas dire que c'est les personnes qui sont à la rue, elles se sont pas accrochées. Non, mais il faut lutter jusqu'au bout et justement sensibiliser les personnes autour de nous à nos problèmes, ne plus avoir peur. Voilà. Parce que quand on est plusieurs à être sensibilisés, ben, on est plus fort. On peut... Parce que moi, après, j'ai pu trouver un appartement parce que j'en ai parlé. Et une personne que je connaissais même pas. Ah, mais tiens, moi je connais blablabla quelqu'un qui pourrait avoir un appartement. Et hop, j'ai eu mon appartement à 3 jours d'être évictée de mon ancien appartement.
Ouais. Le 3 logements n'existe même pas, je veux dire. Mm-hmm. Le payer, c'est pas un problème. Simplement, il faut gagner 4 fois le prix du loyer. Alors, des loyers à 2000 balles, il faut gagner combien pour pouvoir un appartement ? Ah, même si on gagne moins, on peut le payer. Après, on vit d'une manière où on paye son loyer. Et c'est ça.
Et la solution des politiciens, souvent, c'est de dire « Mais vous n'avez qu'à déménager et habiter ailleurs. »
Il y a un truc qui me dérange beaucoup dans le système dans lequel on vit là, c'est que c'est extrêmement normatif. Il faut rentrer dans certaines normes. Il faut avoir un appartement, il faut consommer, il faut produire. Mais c'est extrêmement fragile. Très vite, on perd un boulot, payer les factures pour l'appartement, c'est parfois difficile. On perd l'appartement, retrouver un boulot, c'est extrêmement compliqué.
On ne peut plus avoir un dossier.
Et le problème, c'est que de plus en plus de gens, j'ai l'impression, sont sur une sorte d'échafaudage, ce que j'appelle un échafaudage de verre. C'est-à-dire qu'il suffit... Combien il y en a eu des témoignages de gens qui disaient que j'avais tout, j'avais une ville, j'avais une maison, j'avais des chats, j'avais une famille, sa mère était avec ma femme, elle m'a mis les valises devant la porte, j'ai perdu mon appartement, je ne pouvais plus tenir mon boulot, j'ai perdu mon boulot, les copains qui m'ont hébergé m'ont laissé tomber, et j'ai dégringolé comme ça les chefs. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont, il y a de plus en plus de gens qui sont dans un risque de précarité, dans une précarité potentielle, alors qu'en même temps, on dénie aux gens de fonctionner différemment qu'en étant justement un bon consommateur producteur avec son boulot. On l'a vu avec les votations sur le revenu de base ou ces choses-là. On a de la peine à réinventer un autre projet social parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de projet social. Qu'est-ce qui nous lie les uns les autres à part le fait de consommer et de produire ? Le jour où on aura comme ça une idée de société, de faire ensemble quelque chose, ce que j'appelle une démocratie, peut-être qu'on arrivera aussi à accepter que des gens aient des places différentes. Moi, je connais des gens, ils ne sont pas du tout solubles dans la façon de penser de bah, « il faut faire ton école, et puis tu auras ton diplôme, et tu bosseras ». C'est des artistes, c'est des gens qui sont en marge d'un système, enfin, ils sont dans une autre norme, en quelque sorte, quoi. Et je trouve que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué de trouver sa place quand on est justement hors des sentiers battus, quoi. Et le problème, justement, avec l'espace public, c'est que si je n'utilise pas les rues juste pour aller du parking à mon boulot, du boulot au magasin, puis pour rentrer chez moi, je vais devoir déjà demander des autorisations. Je veux faire de la musique dans la rue, il me faut une autorisation. Je veux faire un stand pour vendre des biscuits parce que mon gamin il va partir faire un voyage d'études, il faut une autorisation. Est-ce que c'est encore public, ça? Donc, voilà, il y a effectivement, je pense, à un moment donné, des dictates, des choses comme ça qui sont un peu dans l'air, où on dit, ben voilà, la rue, ça doit être ça, il faut que chacun ait sa tranquillité, donc pas de musique, pas de biscuits, que chacun rentre chez lui.
Oui, mais c'est pas dans l'air. C'est des règlements, c'est voté, c'est pas voté maintenant, c'est accepté tacitement. Enfin, on a aussi...
Et c'est des mesures d'aménagement.
À s'opposer. Et quand tu dis, bien sûr, quand tu dis les politiciens, je pense qu'il ne faut pas les mettre tous dans un même sac. Mais il faut surtout aller parler, avec ceux qui font la majorité. Tu dis le plan Berset, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas le plan Berset. C'est que tu as une majorité au Parlement UDC, PLR massif, puis le Conseil fédéral. C'est le Conseil fédéral élu par l'Assemblée, puis il fera la politique en partie que veulent les parlementaires. Donc, nous, je pense, on va dire militants de gauche, comme ça, des fois on raisonne au précaré entre nous, puis on se serre les coudes. Mais combien de fois par année on va faire du lobby auprès du PLR, on va voir la section de l'UDC, on va dire exactement ce que vous dites, mais ça suffit, vous faites la politique pour qui? Pour les promoteurs ou pour les gens d'ici? Et allez un peu challenger les certitudes, parce que je vous jure qu'en face, le lobby, il se fait, quoi. On avait un débat sur la santé, il y a Avenir Suisse qui nous invite, les députés, en disant à 15h, venez, on va vous expliquer. Puis il y a un panel, il y a les machins, puis ils te montrent une vision de la société qu'elle a leur. Et je pense que là, on doit s'organiser pour faire entendre exactement cette vision-là, cette vision d'une société qui dit, mais c'est les gens ici qui vous parlent et vous devez changer ces règlements parce qu'ils sont en violation ou... contredisent à d'autres principes de loi. Pareil sur, tu vois, les vélos dans les parcs ou les grillades dans les parcs, régulés, interdits maintenant. Et c'est pas une fatalité, hein. Ça veut dire que si la majorité du conseil municipal, ils disent, ben non, nous on veut autoriser les grillades, ben la semaine, dans un mois, c'est fini. C'était pareil sur les maillots de bain en ville. La ville a voulu faire un règlement plus libéral, de dire, ben les gens peuvent venir, du moment qu'ils ont le maillot adéquat, ils viennent. Non, la majorité de droite a dit non, il faut le deux pièces pour mesdames, il faut qu'on voit les bras, parce qu'il y avait la hantise du burkini. Et tout ça, c'est des rapports de force, c'est des rapports politiques, c'est des rapports de majorité. Et puis, comment on arrive à les inverser? Mais ce n'est pas dans l'air, c'est pas que ça va... Les Suisses auront moins si d'autres ont plus. C'est vraiment comment on arrive, nous, à avoir des objectifs clairs, faire un lobby pour obtenir les résultats qu'on veut atteindre.
C'est plus de la liberté si on demande aux femmes d'avoir un t-shirt.
Je voulais pas ouvrir le débat du burkini.
Il y en a combien qui sont en chemisette et puis je veux dire, il fait chaud et tout. Je dis que c'est plus de la liberté. Ça, si on demande à telle femme d'avoir des t-shirts et puis pas des chemisettes, tout ça, c'est plus de la liberté, c'est plus de l'espace public.
Oui, c'est ça, c'est au nom sur ce débat-là. Sur ce débat-là au conseil municipal, il y a eu, au nom de la lutte contre le burkini,
une majorité. Dans la ville, c'est pas un souci.
Ouais.
Parce que là, on en voit de plus en plus.
Une majorité qui disait les filles doivent pouvoir montrer leurs jambes et leurs bras au nom de la libération. Bah, ça montre un peu sur certains débats de société un peu chaud qu'il y a une partie. Pour moi, qui est un peu irrationnel, on va dire, où les espaces sont ouverts. Bien sûr, c'est pas appliqué. C'est-à-dire que moi, je suis allé à Varambée, il y avait une ou deux fois une personne qui avait un burkini. Heureusement, les maîtres nageurs sont pas cons au point de la sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des marges d'acceptation après, mais le signal politique, il était stupide. C'est la même chose que l'interdiction des minarets. Irrationnel, pour moi.
Après, pour revenir à l'aménagement du territoire en tant que de l'espace public, en fait, c'est que souvent, c'est, l'aménagement du territoire d'une ville, c'est vraiment des théories qui sont mises en pratique. Mais en fait, dans cet aménagement, de nos jours, les villes, elles sont vraiment construites, pour revenir à ce que vous disiez, hein, de manière à ce que, oui, on consomme, donc on va d'un trajet, enfin, notre trajet, c'est A à B, et du coup, c'est juste un trajet. Il n'y a plus cette espèce de la rue comme espace d'échange, comme espace de partage, etc. Et on ne pense plus à, oui, est-ce que de mettre du gravier par terre, est-ce que ce n'est pas aussi exclure la population, je ne sais pas, qui ont chaise roulante, qui a des béquilles, qui a une canne, qui a des parents avec une poussette, avec des enfants et des tricycles, des talons aiguilles, etc. Donc, c'est vraiment aussi des choses qui ne sont pas réfléchies de manière inclusive. Les aménageurs du territoire d'aujourd'hui, moi j'ai étudié à l'université la géographie, donc il y avait aussi un grand segment de l'aménagement du territoire. On voit que c'est vraiment fait de manière théorique pour favoriser les trajets et non plus l'échange et l'espace de vie commun, partagé. Mais vraiment, c'est des trajets qui sont faits justement pour les hommes valides d'1,80 m blancs. Et c'est ça aussi le danger, en fait, de faire trop confiance à des personnes qui sont là pour être techniques, enfin, être genre, théoriquement c'est parfait, mais qu'en fait c'est pas praticable.
Je te trouve un peu sévère.
Parce que par exemple...
Un peu sévère, parce que par exemple à Genève, la place Simon Goulard, on a une future plage des Eaux Vives, il y a un réaménagement de la rade.
Parce que par exemple futurs, à Fribourg c'est vraiment ça.
Les gares Seva qui vont ouvrir. Il y a aussi des concertations qui sont faites avec la population. Alors des fois, qui sont des, ils sont pas vraiment des concertations, mais des consultations. Il faut faire mieux et plus. Mais en même temps, des fois, il y a des populations ou des habitants qui disent si tu vas les consulter, tu planteras plus un clou parce qu'ils sont là. Il y a 500 000 habitants à Genève, ça suffit. Il faut rien changer. Or, on est quand même dans une ville qui change, qui évolue. Mais en tout cas, les urbanistes qui sont à l'État et qui sont à la ville, je trouve qu'il y a des jolies choses qui se font.
Peut-être à Genève.
Une réflexion qui se fait. Et moi, je ne suis pas essentialiste. Je pense qu'un architecte homme, il peut aussi faire un espace inclusif, prendre conscience
du public. Une architecte femme peut aussi faire des choses extrêmement sexistes.
Des merdes, ok, d'accord.
C'est vraiment...
Donc les enjeux, ils ne sont pas forcément de quel est le genre de l'architecte, est-ce qu'elle est faite par les hommes, pour les hommes, mais comment les minorités sont entendues, comment on a une ville agréable, on peut se déplacer en sécurité, on arrivera un moment à faire reculer les bagnoles qui coupent la ville, qui, c'est des faits qui endommagent la santé. Puis là, c'est ce combat-là qui est amené et qui est compliqué. La plaine de Plainpalais, moi, je trouve que c'est une jolie réalisation. Ce gore, après, on n'aura peut-être pas les mêmes idées, il manque peut-être des arbres.
Mais
on va peut-être pas faire le débat de l'architecture. Alors, discussion, c'est un espace fonctionnel qui a été voulu pour un usage maximal. Il y a le cirque, il y a le marché. On peut créer une mini-place du village, comme il y avait peut-être il y a 200 ans, dans un espace qui devient multifonctionnel. Après, on n'a plus forcément une petite forêt et puis un lac. Bon, il y a des tensions, mais en même temps, il y a plein de parcs dans la ville agréables. Et moi,
je trouve qu'on est assez gâtés quand même.
Par exemple, à Fribourg, les Verts ont mis en place des nouveaux bancs, des simples bancs, des bancs à Fribourg, parce qu'il n'y avait plus une seule place pour s'asseoir. Parce que tout est fait pour qu'on aille d'un trajet A à un trajet B sans jamais se parler, sans jamais se dire bonjour. Et maintenant, il y a une nouvelle planificatrice qui a décidé de... en fait, déjà, les places de jeu, on regarde aussi pour que les places de jeu soient faites de manière à ce qu'elles soient inclusives et que ce ne soit plus les garçons d'un côté avec le grand terrain de foot et les filles qui jouent en bordure. Donc, il y a aussi, en basse ville de Fribourg, un concours qui a été lancé pour que le terrain de foot soit réaménagé de manière à ce que ce soit plus autant genré et que ce soit accessible à tous et partagé. Donc ça, c'est des petites mesures. Ça paraît tellement banal. Oui, un terrain de foot. Oui, mais ce terrain de foot, il est utilisé par qui ? En majorité, ce sera des équipes d'hommes. Bien sûr qu'il y a des équipes féminines. Et que les terrains de foot, ils sont pas bienvenue aux femmes, je dis pas ça, mais c'est que dans les statistiques et dans les faits, il y a plus d'équipes féminines qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'elles ne sont pas sponsorisées, ne sont pas médiatisées. Donc il faut repenser toujours les espaces et accueillir les gens et faire des espaces qui se transforment. Ah, pendant ces horaires-là, le terrain de foot, ce terrain, c'est un terrain de foot, mais pendant ces horaires-là, c'est un truc, je sais pas, un gros cliché, le morning yoga pour les femmes, voilà. Et peut-être la nuit, c'est un espace d'accueil, de grillade, etc. Il faut replanifier les choses avec le partage en tête, et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir de l'aménagement du territoire. En tout cas, je sais qu'à Genève, c'est assez vert, c'est assez ouvert, tout ça, mais venez à Fribourg, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de bancs, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait pour favoriser l'échange, la tente, l'espace de loisirs. La rue, c'est vraiment devenu du béton, quoi. Ouais.
Il y a aussi l'autre problème, on parle de grillade, mais pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y a des abus, je suis désolée. Mmh. C'est aussi le problème, il y a un manque de respect de l'espace. Mmh. Pourquoi maintenant ils ont fait... les grillades sont interdites. Il y a des endroits où on peut faire les grillades, mais pas ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a qui abusent. Il y a des trous partout, il y a du feu, il y a tout ce que... Voilà. Moi, j'ai vu à la Perle du Lac, près de la Perle du Lac, un samedi matin, on allait faire du sport, on était là, on faisait du sport. On a vu qu'il y avait une équipe qui avait pique-niqué. Il y avait tout qui était là. Tous les déchets étaient restés, ils étaient assis en rond, ça se voyait, tout était resté sur place. Il est aussi là le problème.
C'est exactement pas la public, question. C'est ça, quoi.
Oui, mais là, c'est
la question.
Ça veut dire que dans ces cas-là, c'est que c'est des mauvais individus, c'est des mauvais citoyens. C'est pas les mesures qui sont mauvaises, c'est les citoyens qui sont mauvais.
C'est ce que je veux dire, c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique.
Et ça, c'est des mesures, c'est de la sensibilisation.
Oui.
C'est de la pure sensibilisation. À Fribourg, par exemple, les élèves, ils ont fait une petite étude, genre les élèves qui ont eu une sensibilisation au triage des déchets, toute leur vie, ils ont ces outils. Ah tiens, c'est comme ça qu'on fait le papier, c'est comme ça qu'on fait du bon papier, et tout ça. Mais
sensibiliser à ne pas laisser ses trucs.
Mais il y a des gens qui ne savent plus qu'il faut jeter parce que voilà.
Mais ils arrivent avec des sacs, avec leur bouffe, leurs trucs, les machins, qui remettent les déchets leur sac et qui les rembarquent.
Je peux amener un ou deux éléments, je suis une spécialiste des grillades. Non, je plaisante. Mais vous avez raison, je dirais toutes les deux. C'est-à-dire que c'est la question du partage de l'espace public. Des gens veulent légitimement pouvoir griller un petit truc l'été, mais quand il y en a 400, même s'ils sont très civilisés, ça pose un problème. Des gens disent à la Perle du Lac, un nuage bleu. La réponse de l'État, c'est de dire ils ont un problème. C'est interdit partout, sauf sur les 4 grilles qu'on met à disposition. Dont acte, mais le problème est déplacé, parce qu'après, il y a des gens qui s'approprient les grilles. D'autres peuvent pas griller, puis ils disent moi je devrais quand même légitimement pouvoir faire mon petit frichti sans qu'on me l'interdise, c'est pas juste. Ces enjeux ils sont là à un niveau vraiment bébête, mais ils sont importants et on les résout pas avec la civilité, parce que tu peux être très civilisé mais en même temps ça occupe une gêne, et on c'est pas non plus des nuisances ou c'est des sauvages qui s'approprient les choses. L'enjeu, il est comment on régule ces espaces-là. C'est la même chose pour le bruit. Est-ce qu'on peut parler dans l'espace public à 5 en sortant d'un bar? Il y a quelqu'un qui dort en dessus. Puis cette espèce de zone grise où l'État, il ne sait pas trop. Des fois, il met un peu plus la matraque. Des fois, il autorise un peu plus. Des fois, des citoyens, ils en ont marre, ils gueulent. Mais après, on voit que ceux qui gueulent, ils obtiennent un peu gain de cause. Moi, l'enjeu, c'est pourquoi, quand on est sur des enjeux précaires, à la rue, discriminés, soit ça gueule pas assez fort, soit on a de la peine à se faire entendre, parce que là, ça se poursuit.
Le problème, c'est que l'espace public, c'est qu'il est public. Et les gens qui le fréquentent ont des fois des façons de voir, de penser radicalement différentes. Je pense à certaines personnes qui ont leur ville qui viennent faire le cours en ville, leur projection de l'espace public n'a rien à voir avec quelqu'un qui est toxicomane et qui vit à la rue. Sans être toxicomane, donc comment faire cohabiter tout ce petit monde? Et de nouveau, on retombe dans le choix des décideurs, quoi. Parce que finalement, à un moment donné, quand on tranche, c'est le politique qui tranche, quoi. Qui va après donner ses mandats, je ne sais pas, à la police ou à tel organisme Mais finalement, le gros problème de l'espace public, c'est que tout le monde le fréquente avec des visions, des façons de faire qui sont radicalement différentes. Et le gros problème, j'ai l'impression qu'on rentre dans une période où on est de plus en plus intolérant vis-à-vis de ce que font les autres. Et ça devient extrêmement compliqué. On va aménager une place. Alors maintenant, il faut que ce soit OK pour les hommes, OK pour les femmes, OK pour les chiens. Il faut qu'il y ait des arbres. Il faut que ce soit OK pour les invalides. Il faut que ce soit OK pour les aveugles. Et puis tout ce que j'oublie, quoi. Et donc maintenant, il faut aussi des petits cyclables maintenant. Donc je me mets dans la peau d'un urbaniste pour essayer de me dire, bah, tiens, bah, je vais refaire un truc, allez, une place pleine de pain palais. Waouh, comment je vais faire le truc pour qu'il y ait finalement pour qu'il y ait le moins de critiques possible, parce qu'il y en aura de toute façon, quoi. Donc je pense que c'est pas évident, mais ça demande, de nouveau, moi, je pense que c'est à chacun, ça prendra à chacun de repenser un peu ces questions-là, quoi, également.
Mais c'est pour ça que c'est un métier et qu'il y a des écoles d'aménagement du territoire.
Oui, mais ça passe aussi, moi, je pense...
Parce que je veux dire,
je prétends pas que des places doivent être parfaites, mais au moins qu'on inclut tout le monde.
Mais on
pense,
pas.
En théorie, qu'on a inclus tout le monde.
Mais on peut pas inclure tout le monde.
Non, mais il faut avoir un certain équilibre.
Oui, mais il faut aussi que les gens, les citoyens, c'est ça. Je pense qu'il y a... Moi, je pense que le citoyen, il a beaucoup de... Voilà, d'impact là-dessus. Et chacun fait comme il veut, maintenant chacun fait comme il veut, chacun pour soi, chacun aussi ça. Et on n'a rien à fiche de l'autre. Donc il va laisser traîner ses trucs, il s'en fout. Donc après, il y a celui qui va aller en vélo, qui veut aller, voilà, il s'en fout des piétons de n'importe qui. Et tout le monde, je veux dire, à tous les niveaux, on prend n'importe qui, tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. C'est un peu ça le problème. Il est là le problème. Alors dans l'espace public, on fait comment ? Il y a 10 personnes, 10 différentes,
qui agissent différemment. On a perdu les liens qui nous lient entre nous. Et ça aussi, je pense que s'il y avait plus de rues et de routes qui étaient faites de manière à ce qu'on partage les choses, bah, ah tiens, je dois apprendre à partager, ben je vais peut-être être un peu moins incivil. Parce que c'est clair que là, tout nous pousse à ce qu'on soit des individus individualistes, égoïstes, etc. Donc c'est clair qu'on s'en fiche. Si je vais quelque part, je vais laisser mes déchets parce que je sais qu'il y a un employé qui va venir ramasser derrière moi. Tandis que si on apprend que, oui, mais cet espace, il est partagé. Mais ça s'apprend. L'éducation, c'est la solution de toute la vie.
Non, mais ça s'apprend. Les déchets, je ne sais pas, je crois que ça s'apprend.
Peut-être que
pas.
Pour vous.
Je sens que ça me paraît
non,
logique.
Non, peut-être que pour vous, c'est logique.
À l'époque,
mais
c'était
ça s'apprend.
Logique. Non, mais c'était.
C'est comme
c'était
apprendre
logique.
À dire
c'est
merci.
Plus logique.
On apprend aux enfants à dire merci.
Oui,
ils ne vont pas dire merci comme ça. Non, on leur apprend. On ne peut pas apprendre un... Par exemple, moi, j'ai un chien.
Non,
j'arrive pas à lui apprendre à
adultes,
dire assis.
Parce que
mais parce qu'elle ne peut pas apprendre et elle n'a pas appris.
Non,
mais... Enfin, on doit apprendre. Ça paraît bête, c'est banal, mais
moi,
on doit apprendre aux gens à respecter les autres.
Quand je vois des personnes de 60, 70 ans, les incivilités qu'ils font, à vélo, partout, qui t'insultent et tout, mais je me dis, ils ont quand même été éduqués. C'est une génération qui a été éduquée. Et pourquoi, maintenant, ils sont comme ça? Ah, alors moi, ça me... Je tombe sur le cul, je suis désolée. Mais c'est la génération de mes parents. Je suis désolée, mes parents sont éduqués. Mais il y en a maintenant. Mais on se demande, ils ont été élevés, éduqués. Ils ont eu, je ne sais pas, c'est une génération. Les enfants, encore, OK. Mais ceux-là, pourquoi ils tombent aussi là-dedans? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Mais moi, je constate plutôt, en tout cas dans ma partie professionnelle, une volonté de bien faire. C'est-à-dire des gens qui veulent s'approprier l'espace public, avoir des jardins, plutôt des dynamiques constructives autour de l'espace public. Alors j'entends, il y a des incivilités et autres. Et un des éléments intéressants, c'est notamment au parc des franchises, les jardiniers qui disent, mais plus il y a de monde dans le parc, plus il est propre. Je trouve ça assez intéressant. Ils disent, c'est l'été où il y a le plus de monde, de grillades, que le parc est le plus soigné. C'est plutôt quand vient l'automne où il n'y a plus qu'un ou deux groupes qui finalement peut-être s'approprient l'espace public ou se disent il n'y a plus personne, on est un peu dans notre coin. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui doit nous faire plutôt réfléchir sur le contrôle social ou alors je ne sais pas si c'est l'éducation, mais comment les uns les autres, on se dit, voilà, quelqu'un qui balance quelque chose, il y a même... d'avoir cette surveillance, ce collectif. Moi, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Je suis peut-être un indécrottable optimiste, mais je ne fais pas le constat d'une ville à feu et à sang, où on dégage n'importe quoi. Je pense que globalement, on est dans une société voilà, de plus en plus dense, une augmentation de population, une urbanité hyper forte, des rythmes forts avec une flexibilisation, fragilité du milieu du travail. Je trouve que ça fait encore société d'une manière plutôt belle. Je vais le dire comme ça.
Peut-être qu'on est d'accord. Je trouve qu'il y a une agressivité à Genève de plus en plus, quoi, dans la rue, partout. Enfin, je trouve que ça les est terrible.
Mais après, ce qui paraît dans ce que vous dites et ce que vous reportez, ce qui paraît pessimiste, c'est que si vous partez de ce constat-là, c'est que tout combat en fait, est voué en quelque sorte à l'échec.
Non.
Et je pense bien que ce n'est pas ce que vous dites, et c'est là où, de toute façon, si on. Il n'y a pas de solution idéale, mais il y a quand même par l'éducation, mais pas que seulement, parce qu'il y a aussi justement par la communication, donc par rien que le fait de le dire, même simplement soi, des fois de porter un discours inverse de celui qui est colporté tout le temps. Et puis après, même des fois, dans des positionnements politiques, on peut avoir des impacts. En définitive, c'est pas. Alors, des positionnements pas politiques au niveau des partis, ça peut être des fois au niveau des associations, et de prendre des positions et de porter des discours qui vont avoir un effet éducateur et un effet persuasif pour justement combattre des choses qui nous paraissent complètement stupide et aberrante, et heureuse. Alors heureusement, on peut dire, oui, il y a encore des campagnes, il y a des votations, donc il y a des moyens de véhiculer des messages différents, et donc de changer certaines manières de penser, même si après c'est le résultat, c'est le vote, c'est la loi qui change. Les campagnes, elles peuvent instituer des changements d'état d'esprit, et donc c'est pas inutile des fois de les lancer, même par exemple, l'exemple le plus bête, c'est que la mobilité douce, je pense qu'il y a 40 ans ou 30 ans, on aurait lancé ce genre de débat, mais on aurait eu des blocages. Moi, je vois mon grand-père, mes grands-parents, ce genre de sujet, ce n'est pas, on ne peut pas l'évoquer. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un blocage. On a fait l'évolution de se dire, maintenant, tiens, on passe à une étape d'après et on consomme peut-être différemment, alors avec des intérêts qu'on veut garder de confort, peut-être, bien sûr, mais on a réussi à faire le changement d'état d'esprit. Et donc, pour moi, c'est faisable. Et donc, s'il y a encore des outils... Je pense qu'il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher, que ce soit par l'éducation ou par les campagnes politiques. Alors, j'ai peut-être un biais politique, c'est certain de mon côté, mais je pense que c'est faisable. Et on a prouvé qu'on pouvait changer des mentalités avec des campagnes politiques, avec des partis politiques qui nous paraissent à des années-lumière, mais en définitive, ils ont fait des changements de société qui peuvent être bénéfiques, pas bénéfiques, ça c'est heureusement chacun se situe, mais c'est faisable. Et donc de pas être militant, mais de prendre parti. Bêtement, ouais. À ce moment-là, de prendre parti et pas de se dire on va tousser dans le combat les uns contre les autres. Parce que là, je pense que c'est là où on va vraiment avoir des difficultés. J'aurais des fois la même réaction. On a tous la même réaction de se dire je suis sur la défensive, personne qui m'aide, personne qui vient m'aider, je vais me débrouiller. Mais je dirais. Non, mais
c'est
je disais.
C'est un constat.
Moi, ça m'arrive, ouais. Moi, ça m'arrive pas d'avoir cette réaction-là, de me mettre sur la défensive. Mais après, je me dis ouais, mais là, c'est, en fait, je me mets tout seul. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a toujours des combats, je pense, menables, en fait, toujours faisables. Sortir des outils pour les mener.
C'est ça, moi je dirais, pour rebondir à ce que tu dis, c'est qu'en Suisse, on a la chance d'avoir des outils démocratiques et aussi des outils qui nous permettent de nous associer, de faire des choses pour changer les choses. À Fribourg, avec un groupe de personnes, on en avait marre du harcèlement de rue, on a fondé une association. Ça fait 3 ans qu'on existe et maintenant on a un poids. Un certain poids politique, etc. S'il s'agit d'incivilité, on peut créer des associations, on peut faire des motions, on peut faire un tas de choses. Parce que, à mon sens, et c'est pas une critique, hein, on peut se plaindre, mais il faut surtout trouver la solution qui va avec la plainte. Et les solutions, les outils pour trouver des solutions, ils existent, et on peut les utiliser en Suisse. Et c'est ça aussi... Une chose dont on ne parle pas forcément en Suisse, c'est que oui, on est très confortable, mais on a aussi des outils qui marchent et qui fonctionnent pour trouver des solutions. Et par exemple, faire une association, faire un collectif de bienveillance, ou je ne sais pas, faire une brigade de... À Fribourg, il y a ça, par exemple, une brigade de personnes qui ramassent des déchets. Puis après, ils vont à la rencontre de la population en distribuant des flyers, et en même temps, ils ramassent des déchets. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place parce que des personnes en ont eu marre, mais elles ont pris les devants. Et c'est ça, il faut arrêter d'être juste le spectateur, il faut prendre son courage à deux mains et puis aller vers l'avant et trouver des solutions, s'engager, etc. Donc moi, j'entends ce que vous dites, mais je vous encourage...
Mais si vous trouvez normal qu'il faut créer des brigades contre les déchets...
Mais on en est là aujourd'hui. Ouais, on ne peut plus juste se plaindre. Alors moi, je vous encourage à peut-être sensibiliser
le débat se retrouve souvent là-dessus. C'est-à-dire que si ce n'est pas le citoyen qui le fait, c'est l'État qui va le payer, donc il faut augmenter les impôts et le débat part au même endroit.
Ok, mais je veux dire, c'est là-bas... C'est le... ouais,
ouais. Il me semble qu'il y a des citoyens qui régulièrement vont nettoyer
les bords de l'art. Demain, il y a le plugging à Bernay. Vous allez à Bernay. Le plugging à Bernay demain matin à 10h15, quoi. C'est une marche, et puis on ramasse dans un endroit, puis on ramasse ce qu'on trouve. Tout le monde se promène avec un sac, et puis voilà, ça existe, ça commence à se faire. Ça se fait, mais bon.
ces mêmes tendances.
Ce que vous dites, c'est important parce que justement, en fait, on est vrai à point de vue de bah, ça paraît tellement aberrant
ouais.
qu'on va même.
De, faire faire, de devoir faire ça, quoi. C'est ça que je veux
dire. Le problème, c'est qu'on est. On est dans le processus. Moi, je vois ça comme un processus, c'est la fin, c'est d'arriver au moment où tout le monde se dit c'est tellement aberrant qu'on ne le fait plus, en fait. On ne va plus jeter la bouteille de tête par terre. Ce qui me paraît, moi aussi, aberrant. Mais je pense qu'il faut être conscient, et je rejoins un peu ce que tu disais par rapport à cette idée de bah, finalement, on n'est pas. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas éduqués à ça, ou il y a des gens qui ne sont juste pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que soit ils ont changé de comportement parce que la société très individualiste nous pousse à regarder nos propres intérêts et voilà. Les gens plus âgés, peut-être, je ne sais pas, se disent moi je l'ai fait, mais les autres ne le font pas, alors excusez-moi, ça me fait chier, je ne veux pas le faire et maintenant je ne vais plus m'embêter. Enfin voilà, on rentre un peu dans un cercle vicieux, mais l'idée c'est que justement on doit commencer à petit reprendre ça en main, rééduquer les personnes, les sensibiliser. Pour qu'en fait, à la fin, on arrive justement à cet idéal où tout le monde se dit, mais c'est pas tellement aberrant qu'on le fait plus. Et je pense que c'est. Voilà. On devrait tous en fait penser comme ça, mais il faut se rendre compte qu'actuellement, c'est pas le cas et que la majorité est encore dans ce processus de prendre conscience, de se dire, ah oui, effectivement, et de sortir un peu de sa vision pour justement comprendre pourquoi en fait, il faudrait se dire que c'est aberrant.
Moi, je trouve intéressant qu'on parlait de la discrimination dans l'espace public envers les personnes. On finit le débat avec la gestion des déchets et des incendies. À quel moment, bon, on a slalomé, on a même placé Burkini, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui raconte notre société aussi dans cet étrange parallèle où on part pour parler de discrimination sur des humains, puis on parle de l'éducation aux civilités. Moi, ça m'interroge beaucoup sur ce qui nous agit. Je suis pas du tout à penser que c'est une question individuelle de... On s'organise, on fait des brigades. Voilà, moi, je suis un peu plus étatiste. S'il faut, vous l'aurez compris, s'il faut augmenter les impôts, on les augmente. Pas sur les classes moyennes et précaires, mais des grandes fortunes, il y en a. Et c'est pas à la culpabilisation individuelle de se dire « Ah mince, j'ai quelqu'un qui dort en bas de la rue. » Comme nous disent certains, « Prenez-les chez vous. » Les migrants, c'est pas aux individus à s'auto-organiser. Sinon, on va aussi dans des dérives, des brigades d'autoprotection, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment l'État affaibli, attaqué, les politiciens, machin, dénigrés. C'est à l'État et à nous de revitaliser un État qui soit juste, redistributif, et qui prenne soin des plus précaires, qui s'occupe de nettoyer l'espace public. Moi, j'ai l'impression que l'espace public, putain, il est très nettoyé. Si on pouvait mettre un peu moins de moyens dans le nettoyage des routes et autres, et un peu plus sur le souci, de nouveau, aux humains, aux droits humains, à la protection des plus précaires, j'en serais le premier heureux. Mais quand on vote les budgets, là aussi, il y a des fronts politiques très forts. Pour moi, c'est très important, et ça l'est, de mettre du phonoabsorbant, d'avoir un nouveau parking aux clés de rive. Voilà, ça c'est très très important. Puis il y a les commerces, il y a l'économie, etc. Et puis là, voilà, il n'y a pas toujours des majorités politiques pour le faire, mais je te rejoins, ça dépend aussi de chacun.
Bon. À mon avis, je crois que de plus en plus, votre parent il n'a pas du temps assidu d'être à côté de leur enfant pour l'apprendre qu'est-ce qu'il fait. On travaille de plus en plus, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. On parle de gens qui. Mais on vit aujourd'hui dans autre monde. Vous savez, quand on arrive en train et on regarde à gauche, à droite, tous les gens qui arrivent entrent dans le train, tout de suite ils sortent un téléphone mobile ou quelque chose, et c'est la génération d'Internet. Sont autres perspectives que nous avons à l'époque. Ils sont préoccupés d'autres choses qui ne sont pas dans.
Il n'y a plus la famille comme il y avait à l'époque, où on était à table,
ouais,
on était
sur le temps. C'est fini,
ça, on est d'accord.
C'est fini, mais de plus en plus, nous sommes plus de. On trouve. De robots qui travaillent à notre place, et va bien un jour que tout va être robotisé. Et aujourd'hui, on pense qu'est-ce qu'on fait, Mais il faut penser de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il faut, comment dire là, de fiscaliser le robot de maintenant. On met des impôts, vous rigolez, mais il faut mettre des impôts maintenant sur la... sur l'entreprise qui de plus en plus, mais c'est une normalité parfois qu'on dit on avance, mais il faut penser maintenant que va bien un jour qu'on n'a pas aussi suffisant d'argent pour payer notre retraité ou à gauche, à droite. Parce que si on pense maintenant de mettre un impôt sur, sur le robot, et en plus, ici, en Suisse, j'ai attendu, mais Suisse a refusé le venu minimum
universel.
Est-ce qu'on ouvre à la discussion les deux débats du revenu de base et des robots?
Je pense qu'on ouvre l'apéro.
Ça, c'est deux grands sujets.
C'est vrai que c'est un autre débat.
Ça, c'est encore autre chose.
Et merci à toutes et à tous pour vos interventions. Merci à nos invités.
Merci à notre animatrice.
Merci.